des problèmes ? Il y en a des tas. Ton portable qui n'a plus de batterie. Le sac de course qui lâche au milieu de l'escalier. Ton pied qui vient s'écraser par accident contre la table basse. Ce superbe mec qui ne répond plus à tes messages. Les clés restées dans la bagnole. Ta prof de français qui arrive 9 minutes après le début du cours. Et puis la fonte des glaciers. La guerre, la pandémie, leur crise. La course effrénée du capital. Et l'ampoule du salon qui lâche sous tes yeux. On n'est pas bien là. Le monde change et on pourrait raconter la vie autrement. Trouver des chemins de traverse, arpenter de nouveaux sentiers. Et c'est justement ce que l'on vous propose avec cette émission. De découvrir ces gens qui ont pris la tangente, qui savent que l'avenir est déjà là. Alors, avec toute notre équipe, on a décidé de prendre la clé des champs et de voyager à travers la Normandie. Son cidre fou, ses vaches brunes, blanches et noires, son houblon, ses artisans, ses producteurs, ses acteurs du changement. Cette région qui semblait si quotidienne à nos yeux et qui recèle en fait de nombreuses surprises. Toujours autant de pluie en Normandie. Mais qu'en est-il de son soleil qui coule en nous ? Aujourd'hui, entre pelote, dévidoire, bobine, crochet, ciseaux, écheveaux, bloqueur, laine brune, brute ou teinte, pure laine normande, du Danemark, de Suède, sur la trace des Vikings, mais nous y reviendrons, alpaga, mohair, soin ou lin peigné, pour donner vie à des écharpes, pulls, bonnets ou couvertures, vous l'avez sans doute deviné, nous sommes dans une mercerie qui met en valeur cet art noble du tricot. Qui consiste à transformer la fibre en trésor textile. Attention, pas n'importe quelle laine. Des fibres nobles, locales pour certaines, venues des pays nordiques pour d'autres. Travaillées avec patience et savoir-faire, et que des mains expertes tricotent, crochettent ou tissent, avec une dévotion que l'on pourrait presque qualifier, tant la matière s'y prête, de douceur incarnée, à l'image de notre invité du jour. Stéphanie, bonjour.
Ben bonjour.
Alors, avant d'aborder l'activité actuelle de la mercerie et du magasin Au fil de l'eau où nous sommes aujourd'hui, qui est situé à Caen, avenue du 6 juin. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur votre parcours, parce que vous avez un parcours riche. Vous avez été coiffeuse, vous avez fait du maraîchage, et il y a eu quand même toujours un peu un fil rouge dans tout ce que vous avez fait, jusqu'à aujourd'hui, ce travail autour de cet art noble de la laine. C'était la protection de l'environnement. Quand vous étiez coiffeuse, c'était déjà les coiffures végétales. Ensuite, le maraîchage, vous étiez plutôt sur du maraîchage orienté vers le bio et vers...
La permaculture.
Mmh. Et donc, moi, ça m'intéresse de savoir, dans ces métiers différents, qu'est-ce qui a nourri votre savoir-faire pour ces savoir-faire, enfin, qu'est-ce qui a nourri votre passion pour ces savoir-faire artisanaux et l'environnement ? Et ce qui vous a amené aujourd'hui à ouvrir une mercerie ? Un long parcours.
Oui, un long parcours. Et justement, par quoi commencer ?
Coiffeuse, déjà, parce que moi, je vous ai connue comme coiffeuse il y a longtemps. Avec coloration végétale, alors que ce n'était pas encore très répandu.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est comment faire de belles choses avec déjà ce qu'on nous offre, on va dire dans la nature, hein, même si... Enfin, c'est des phrases un peu toutes faites, mais on ne va pas les chercher très loin, en fait. On peut déjà faire de très belles choses avec ce qu'on nous propose. Donc, colorer les cheveux avec de la couleur végétale, pour moi, c'était une évidence. Surtout qu'on nous le proposait en tant que professionnel, hein, parce que moi je m'amusais pas à faire les potions, les recettes, ça je savais pas faire. Mais dès que l'idée, dès que c'était abordable, voilà, j'ai pu proposer ça aux clientes. Ensuite, le maraîchage m'a intéressée puisque travailler la terre c'était quand même aussi essentiel. Et puis pouvoir se nourrir avec nos légumes, c'est quand même très riche. Enfin, moi je trouvais que ça m'a beaucoup apporté. Alors, je ne suis pas restée longtemps maraîchère parce que...
Oui, c'est un métier très difficile quand même.
Surtout au niveau climatique. Difficile physiquement, moi je ne dirais pas ça, parce que coiffeuse, ça l'est aussi beaucoup. Mais justement, après, 30 ans de coiffure, enfermée dans une boutique, dans un salon, je crois que j'avais envie de prendre de l'air. Et puis, de nourrir sa famille, c'est quand même... c'est très plaisant, c'est bénéfique, c'est donc voilà. Et puis le temps, on n'a pas souvent de belles récoltes, enfin pas toujours. Et donc là, on va dire que c'était essentiel que, enfin je sais pas comment dire.
D'explorer de nouveaux horizons en fait, de faire autre chose, mais avec cette idée de prendre soin des autres. Dans le maraîchage, il y avait ça. Prendre soin de sa famille, comme quand on fait de la coiffure végétale, c'est aussi on prend soin des autres. Mm. On leur propose quelque chose qui ne va pas les abîmer. Mais la nourriture, c'est un peu ça. Et là, c'est encore un autre parcours qui s'ouvre, j'ai l'impression.
Bah, ouais. Oui, mais c'est aussi dans le partage, surtout, ouais, partage. Donc là, ouvrir une boutique, on offre de la laine, enfin la laine à acheter, hein, forcément. Les gens ont besoin en fait de s'occuper les mains maintenant. Enfin, ça leur fait du bien de se recentrer sur des fabrications de vêtements, de pulls. Ouais, ça fait beaucoup de bien aux personnes. Je sais pas comment dire en fait.
Ouais, d'apporter aussi un. On parlait des savoir-faire manuels, mais c'était ça. Dans vos deux métiers précédents, il y avait ça. Là, c'est moins le cas parce que là, vous revendez de la laine, mais il y a quand même des ateliers qui se passent ici. Il y a transmission d'un savoir-faire. Et puis, il y a effectivement cette idée de. On est dans un monde qui s'accélère, un monde qui va de plus en plus vite, un monde qui oublie les savoir-faire manuels. Mmh. Et là, c'est peut-être aussi une façon de retrouver ça.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de demandes, justement. Pas mal de gens viennent vers nous pour apprendre à tricoter, parce que c'est même conseillé par certains médecins, donc ça c'est étonnant, mais pour le cœur, moins de stress, des choses comme ça, donc revenir à fabriquer avec ses mains. Et donc nous, on savait faire, parce que je dis nous, parce que je suis avec ma sœur, en fait, je suis co-gérante de la boutique. On tricote depuis qu'on a 6 ans, l'âge de 6 ans, ma sœur aussi, elle crochète, elle. Donc, c'est des choses qu'on maîtrise, enfin, moi, on maîtrise bien. Et comme il y avait beaucoup de demandes, on s'est dit, bah, autant proposer cette boutique sur Caen, parce qu'il n'y avait pas.
Il y avait quelques merceries, mais c'est vrai que c'est des métiers, c'est comme, il y a certaines boutiques qui ont disparu, parce qu'il y a certaines pratiques qui ont un peu largement diminué.
Ouais. Enfin, il y avait une boutique, hein, surtout, qui ne propose pas du tout les mêmes choses que nous, mais voilà, donc une autre proposition.
Justement, vous êtes tourné vers les laines peut-être plus qualitatives. En tout cas, il y a les laines, on parlait des laines normandes, et puis il y a aussi ce choix d'avoir fait, d'être allé chercher les laines plutôt des pays nordiques. C'est intéressant. Ouais. Pourquoi plus les pays nordiques et la laine locale que les autres? Pour se différencier ou parce que justement, il y a quelque chose de spécifique dans ces laines?
C'est surtout, au départ, il y avait tellement de choix. Donc, quand je dis qu'on propose des laines, c'est la vraie laine. Enfin, c'est l'alpaga. La laine n'a le nom de laine que quand elle vient du mouton. Sinon, c'est la laine, de l'alpaga, de la soie, du mohair, voilà. Qui ne sont pas mélangés, en fait, à de l'acrylique ou du polyester. Et là, on n'avait pas cette proposition sur Caen. Donc, c'est vraiment des matières... brutes, enfin, vous voyez, qui viennent vraiment de l'animal ou du végétal aussi. On a du coton, du chanvre, du lin. Enfin voilà, ce qu'on peut trouver quand même assez facilement sans faire de la pétrochimie. C'était le but.
Donc, c'est là où il y a ce lien avec ce fil rouge, avec cette protection de l'environnement, voilà. Cette qualité de produit. Ça, on le retrouve ici dans la boutique à tous les niveaux.
Après, donc comment choisir parce que chaque pays a sa qualité. Au Portugal aussi, ils font du très bon mérinos, justement, de la laine de super bonne qualité. Mais là, on aurait eu un choix beaucoup trop grand. Donc, on s'est dit, eh ben, c'est simple. Nous, en tant que Normandes, on va partir d'où on vient, c'est-à-dire refaire tout le chemin des Vikings. Donc, ils sont partis d'Islande, ils sont passés par les pays du Nord. Pour arriver aussi, ils sont passés aussi par l'Angleterre, et revenir après en Normandie. Donc voilà, c'était aussi notre fil rouge, et on a décidé d'appeler ça au fil de l'eau, parce qu'on s'imagine très bien sur un drakkar, et voilà, toute cette histoire.
C'est cette histoire qui a guidé le nom, parce que c'est vrai que le nom n'a aucun rapport immédiat avec la laine au fil de l'eau. On s'est dit, bon, il faut de l'eau, j'imagine, pour faire de la laine, sans doute, comme beaucoup de matières premières qu'on doit retravailler.
Mais c'est aussi une expression de tricoteuse, au fil de l'eau. Enfin, petit à petit, on tricote, on voit le pull se fabriquer, enfin, prendre une forme. Et donc, en fait, on a facilement cette expression dans la bouche.
D'accord, c'est une expression de tricoteuse.
Ouais, voilà. Donc, on a gardé cette expression-là.
Et qu'est-ce qui vous fascine le plus dans le travail de la laine, l'aspect tactile, le résultat évidemment, parce que c'est ça qui est intéressant, ou l'histoire, le côté créatif en fait, qu'est-ce qui vous intéresse, parce que ça fait depuis l'âge de 6 ans, qu'est-ce qui fait que depuis 6 ans, vous avez ce lien avec le...
Alors, j'ai beaucoup changé de de perception hein, par rapport au tricot. Moi, j'ai commencé à tricoter donc avec des laines acryliques parce que c'était très facile d'entretien, ça passe à la machine, n'importe quelle couleur. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Voilà. Après, bon, moi, j'ai quand même fait des pauses dans ma vie hein, parce que d'autres travail, des enfants, voilà. Et j'ai redécouvert donc la vraie laine, on va dire, pour ses propriétés qui sont quand même assez fascinantes. C'est-à-dire que une laine est antibactérien, donc ou antibactérienne. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que on peut la porter, il suffit de l'aérer 24 heures après, et la laine est aussi propre. Elle ne sent plus, plus de mauvaises odeurs. Les poussières sont bonnes aussi. Donc ça, c'est une super propriété, je trouve. En plus, quand on fait attention à l'environnement, c'est quand même pas mal de pas laver à chaque fois ses pulls. On sait que la laine tient chaud. Elle tient chaud, mais on ne transpire pas non plus dedans. Par exemple, un pull qu'on achète en mélangeant polyamide ou acrylique, on va avoir l'impression d'avoir chaud, mais en fait, on transpire. C'est comme si on était entouré de plastique. Donc, c'est pas du tout le même confort. Et la laine, on peut la supporter jusqu'à 22-23 degrés sans problème, parce qu'elle est thermorégulatrice. Okay. Donc, rien que ça, moi, j'ai envie de porter que des matières naturelles.
Voilà, oui, ouais. Je comprends.
La soie, on retrouve ça aussi avec la soie, c'est-à-dire qu'elle peut nous réchauffer quand on a froid et nous rafraîchir quand il fait chaud. Donc, que demander de plus ? Enfin, je trouve ça génial. Voilà, le lin, c'est très frais aussi, très agréable à porter. Même puis, si...
matière locale, s'il en est.
En plus, voilà. Ouais. D'ailleurs, on a une marque qui fait du lin bio de Normandie, ouais. Donc c'était évident qu'on la propose. Donc voilà, j'ai vraiment redécouvert toutes ces matières-là.
D'accord. Mmh. Et du coup, alors, il y a à la fois ici, on est dans un lieu de vente de produits, donc de conseils, évidemment, puisque ça, et puis en plus, vous maîtrisez le sujet, mais c'est aussi un lieu de partage. Il y a quand même, pour les gens qui ne connaissent pas encore la boutique, il y a un lieu où on peut s'installer, venir faire du tricot, discuter, échanger, prendre un café. Alors, je sais qu'il y a des événements, mais il y a aussi une salle d'atelier derrière. Donc, comment vous. Vous avez mis ça en place, comment ça se passe ? Il y a des ateliers à réserver, des temps particuliers où on peut venir quand on veut ?
On va dire qu'il y a deux sortes vraiment de rencontres, en quelque sorte. Donc là, dans la boutique, on a une première salle avec des canapés, des chaises. Ce lieu-là est ouvert à tout le monde. Ils peuvent venir tricoter, crocheter, tous les arts du fil. Voilà, les personnes sont les bienvenues. Peuvent s'installer, donc on est ouvert de 9h30 à 19h, donc quand vous voulez. On ne demande rien. On peut aussi nous demander des conseils et on peut rencontrer aussi d'autres personnes qui ont la même passion. Donc pour nous, c'était important de proposer ce petit lieu très sympa. Et puis une autre proposition, c'est des ateliers d'apprentissage. Donc là, on propose 1h30 pour 25 €. Et on essaie de donner notre savoir.
D'accord. Là, c'est la transmission de la passion et des savoirs. Parce qu'il y a vraiment cette passion quand même qui guide. Et c'est aussi des moments conviviaux, puisqu'on peut prendre un thé, on peut prendre un café, des apéros tricots, des thés tricots, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a des animations qui sont proposées ici.
L'apéro tricot, oui. L'apéro tricot, par contre, il faut réserver, parce que très vite... Très vite, il y a pas mal de monde. Donc voilà, et il y a aussi une participation financière pour l'apéro. Voilà.
Bien sûr, oui. Et donc là, j'imagine que vous travaillez de fait avec des producteurs locaux.
Bien sur sûr.
Des
bières locales.
La boucle est bouclée, quoi. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais quand vous étiez coiffeuse, c'était aussi. Il y avait le salon de coiffure pendant longtemps, mais après, vous aviez eu un projet quand même assez alternatif de restaurant salon de coiffure.
C'est ça, ouais.
Ça, c'était
donc
quand même
étonnant. On était associés, ouais.
Ce lien, effectivement, avec le local, c'est quelque chose qui...
qui est important aussi, puisque, comme je disais, on trouve facilement ce qu'on veut, pas très loin de chez nous. Et puis, ça fait vivre d'autres personnes. Enfin, c'est un très beau circuit, je trouve. Donc dans le restaurant, là, qui est maintenant les gens heureux, quand même, faut le dire, ouais. Donc, travaille toujours avec des producteurs locaux, des boissons aussi faites localement, enfin, voilà.
Et du coup, vous avez des projets après pour la suite ? La boutique est ouverte depuis peu de temps, mais est-ce que vous avez envie de développer de nouvelles choses dans cette boutique ? Est-ce que les retours des personnes qui sont là vous permettent d'imaginer un futur, d'autres activités ? Je ne sais pas.
Oui, bien sûr, parce que là, on n'est qu'au début. Donc, nous, on a vraiment envie de partager ça, mais même à l'extérieur. Donc pourquoi pas d'aller tricoter justement là sur le canal ou peut-être à l'hippodrome, vous voyez, enfin de sortir et en fait rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, je trouve que c'est assez important maintenant de retrouver ça, d'échanger.
Et on voit qu'il y a des nouvelles générations, on en parlait un peu tout à l'heure, mais des étudiantes ou des étudiants, plus des étudiantes j'imagine, parce que c'est encore une pratique étonnamment, parce que historiquement c'était les hommes qui tricotaient, mais il y a très longtemps. Maintenant c'est effectivement plus un savoir féminin, enfin en tout cas quelque chose qu'on fait du côté des femmes, mais la nouvelle génération commence à se remettre au tricot.
Donc les gens d'une vingtaine d'années, ça y est, reprennent, moi surtout les filles. Bon, quelques garçons quand même, on a quelques lycéens aussi qui viennent, mais ça aussi c'est dans l'air du temps de fabriquer ses vêtements, parce qu'on va chiner facilement aussi ses vêtements, donc forcément on les fabrique, on les tricote, on les crochette, mais
on
ça,
les répare
ça reste
aussi, ça...
voilà, même des tricots aussi on peut réparer, donc ça se fait beaucoup aussi, et oui, pour l'instant pas beaucoup de garçons quoi. Donc peut-être que ça viendra, peut-être la prochaine génération,
peut-être
un peu plus quoi.
On peut espérer. En tout cas, l'idée c'est que ils peuvent aussi venir ici à plusieurs et puis apprendre et
tout à fait,
dans une ambiance, et vous le découvrirez quand vous viendrez dans la boutique, très zen, très calme, où on se pose et on admire, parce que c'est beau en fait toutes ces pelotes,
les couleurs,
c'est vraiment magnifique. Bon, on est déjà arrivé, parce que c'était très court malheureusement cet entretien, mais on va se quitter en musique, et ça c'est la carte blanche qu'on donne à chaque fois à nos invités, et aujourd'hui ça va être avec Anthony Hanson Johnson avec Hope There Is Someone. Merci beaucoup Stéphanie, et à bientôt.
Je vous en prie, merci.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, he should go to bed. If I fall to his feet tonight, and I will not drown. Or paralyze in life. And God send, I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I